campagne a beau être top, elle ne livrera pas tous les succès escomptés si la force de vente et la distribution n'est pas dans le coup. Le marketing de distribution, c'est l'arme secrète de l'agence CRI. En développant plateforme extranet et autres programmes de mobilisation de la force de vente, ils sont connectés sur les résultats. Et surtout, ils jouent le rôle de chaînon manquant entre les services marketing et les services de vente, ces deux réalités jusqu'à maintenant irréconciliables des structures clients. Bon podcast!
T'as-tu déjà remarqué que chez nos clients, le marketing puis les ventes, ils sont souvent en chicane?
C'est fou, hein? J'ai jamais compris celle-là.
Puis il y a toujours une chicane de dire le marketing, il n'aime pas sa force de vente parce qu'ils disent on vous donne du nouveau matériel, on fait des extensions de produits, on lance des affaires, tout, puis on vous fait des planogrammes magasins, puis vous faites jamais rien comme il faut, tu sais. Puis là, les ventes, ils répondent, vous avez aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, la compétition fait telle affaire, les gérants veulent plus rien savoir de vos nouvelles saveurs, tout ça. Nous, moi, on a catché que dans cette tension-là, si tu es capable de les réconcilier, il y a de la business chez à peu près tous les clients.
T'sais. Fait que vous êtes le chaînon manquant.
Ouais. Fait que à partir du moment où les ventes, ils nous écoutent, puis ils disent, shit, enfin une agence qui a compris ce qu'on vit sur le terrain, puis qu'on, dans le fond, on fait la paix, le lien entre les deux, là.
Ben, vous réconciliez deux réalités qui sont souvent irréconciliables dans la structure même de l'entreprise.
Ben oui, puis, tu sais, quand t'as une belle agence de brand qui a bâti une marque qui a vraiment comme une belle profondeur, puis des beaux attributs distinctifs des affaires de même, nous, on s'enthousiasme pour ce brand-là, puis on le convertit en outil shopper, en outil pour mobiliser la force de vente, en concours force de vente, ou etc., pour que, dans le fond, quand tu fais ton lancement de ce brand-là ou quand tu mets du média, ben le reste de la patente te suit, là, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, plutôt qu'avoir une exécution par 10 magasins, là, tout d'un coup, tu as 4-5 exécutions par 10 magasins, puis là, tes chiffres de vente sont hallucinants, tu sais, puis tout le monde est content.
Ça doit être une belle façon de vous présenter, ça aussi, ces espèces de cas d'histoire d'amour-là.
Ben oui, parce que dès qu'on est capable de provoquer ce discours-là entre le directeur des opérations, le directeur des ventes, puis le directeur du marketing ou le VP marketing, dès qu'ils sentent que, hey, enfin, je vais pouvoir comme dire à la gang des ventes qu'on a un partner qui a compris là, de quoi ils ont besoin, puis tu sais, on commence à avoir pas mal d'expérience puis d'études de cas à présenter, fait que ça soit Michelin, mais aujourd'hui, c'est Olimel, c'est Cascade, c'est Desjardins. Tu sais, Desjardins, c'est un beau cas aussi, parce que eux aussi, ils ont une cote d'amour avec les Québécois qui est hallucinante. Tu sais. Mm-hmm. Desjardins, ils ont même le droit de rentrer dans les écoles primaires, puis les comités de parents, ça ne la dérange même pas. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment une marque qui est appréciée des Québécois, puis pourtant, leur Net Promoter Score est super bas, parce que la prestation de service est un peu défaillante. Tu sais. Fait que nous autres, on a beaucoup de mandats depuis quelques années sur la prestation de service en caisse puis en point de contact client pour que, dans le fond, le Net Promoter Score, ça veut dire, ben, je suis fier d'être client des Jardins, puis ma conseillère, elle me connaît bien, puis elle me propose des affaires, c'est le fun, puis ben, c'est le fun. Moi, je suis encore, là, toutes ces années plus tard, là, super enthousiaste sur ce qui se passe dans le milieu. Tu sais, on fait des portraits sur Amazon, puis quel monstre c'est qui s'en vient. On parle de neuromarketing, puis toute la connaissance là, de la neuroscience, puis comment ton cerveau réagit à des messages, et l'intelligence artificielle, les chatbots. Là, on fait notre premier chez Desjardins. C'est le fun au bout, là, c'est comme, je sais pas si t'es comme moi, mais on s'ennuie pas dans ce domaine-là. Là.
Non, ça évolue très vite.
Ouais, il faut rester sur la pointe des pieds, parce que le train part.
qu'est-ce que tu retiens en termes de vraiment high level, toi qui as commencé dans le print?
Ouais.
Je parle de la façon qu'on travaille des projets entre à l'époque puis aujourd'hui avec il y a plus de collaborateurs internes, externes, il y a le web qui est là-dedans, puis même le web est éclaté en diverses spécialités. C'est quoi ton take de qu'est-ce qui se passait avant, qu'est-ce qui se passe maintenant, la façon qu'on travaille là?
Ben, je te dirais que me semble qu'avant, le nombre de points de contact client était relativement peu élevé puis assez simple. Tu dis bon, ben ok, j'ai de la radio, de l'affichage puis de la télé. Je peux y ajouter du marketing direct. Ensuite de ça, mon client, il sera en magasin. Je fais ma PLV, puis tout ça. Il y a du branding sur mon emballage. Puis, comme tu dis, Alouette, Bing Bang, j'avais comme 8 ou 9 points de contact à travailler. Puis, c'était ça mon environnement.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, c'est assez flyé. Tu sais, c'est tout l'univers. l'univers numérique ouvre comme des centaines de points de contact, toute la personnalisation, même au niveau du marketing direct, que ce soit dans l'univers du email blast, que par la poste, ça, ça complexifie un petit peu le portrait puis tous les outils que tu as à travailler. Mais je pense que si tu dessines un beau path to purchase, là, puis tu trouves ton insight client, puis tu dessines un peu son cheminement, ben moi, c'est mon dada, là, de dire, bon, ben, OK,
ouais.
Le insight client, puis les points de contact où ça va être porteur pour nous autres, ça va être là où on travaille. T'sais.
Parce qu'effectivement, souvent, parce qu'il y a plus de points de contact, on va se sentir obligé d'être présent dans l'ensemble de ces points de contact-là, mais on va pas forcément faire une bonne job. On va souvent répéter la même affaire, ou au pire, on va passer du temps dans des points de contact qui sont pas si importants que ça pour un consommateur, dépendamment de ce qui est rendu dans sa relation avec la marque. Dans son...
Ouais. Puis la bataille que je perds souvent, là, c'est, comme je disais tout à l'heure, t'as une belle marque, t'as bâti une brand avec beaucoup de levier et tout. Puis là, l'agence veut l'amener en point de contact client tel quel. Là,
ouais, ouais.
J'ai mis à la télé mon slogan, j'aimerais ça que ça soit le même en épicerie.
Comme dans le temps de la pub où tu avais la TV, le panneau, puis le magazine, puis t'as toute la même patente.
Oui, mais là, t'es là, attends-moi deux secondes. Là, mon client, il n'a plus le même état d'âme, là, il est ailleurs. Là. Il y a une belle conférence, là, un gars qui s'appelle Bob Hoffman, là, il dit « Marketers are from Mars, consumers are from New Jersey. » Il dit, à un moment donné, on a de la misère à se détacher là, de « Oui, il faut que l'expérience de marque en épicerie soit X. » Lui, il dit « L'expérience de marque en épicerie, là, c'est j'ai trouvé un stationnement proche de la porte, il n'y a pas trop de vieillards dans les allées, puis mon panier, il fait pas de bruit. »
Ou encore, t'es le vieillard dans l'allée, puis le texte est écrit trop petit, puis...
c'est ça. Fait que souvent, le partnership avec l'agence de pub ou l'agence de brand qui est là, c'est de comprendre que voici ton univers à toi, mais laisse-moi mon bout, là. Quand le client, il est rendu sur le plancher, là, il est à moi, là, tu sais, puis nos données sur behavioriste, puis combien il lit de mots à la seconde, puis à quelle vitesse il avance, puis combien il y a points de contact dans l'épicerie, puis tout ça, c'est notre bout à nous autres, là. Mais quand ça se passe bien, quand il y a une reconnaissance des deux expertises, là, parce que moi, je suis pas un gars de brand tant que ça, là, puis je suis certainement pas un gars de portée puis de notoriété, je sais toujours pas c'est quoi un peuple, là, tu sais.
Voyons donc.
Ben oui, je le sais, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai de la misère à faire un pitch pour dire, hey, on achète nos peuples pas chers, là, tu sais.
Ça, c'est sûr.
C'est pas mon univers, là.
T'sais. Dirais-tu qu'il y a comme deux sortes de clients, ceux qui sont, qui soient familiers avec ou pas, c'est une chose, mais qui sont intéressés au moins à gratter un peu plus pour avoir un meilleur portrait. Puis, il y en a-tu d'autres qui est comme, regarde, moi, je fais de la pub.
Oui, il y en a. Mais souvent, il y a comme une épiphanie intéressante quand on parle avec des clients. Je suis allé chez un client, puis tout à l'heure, je parlais de Walmart. Là, puis, il me faisait le portrait de sa distribution. Puis, il était à 16-18% de part de marché dans chacune des bannières de distribution au Québec, sauf chez Walmart. Mais là, je dis Walmart National ou Walmart Québec? Il dit, ben Walmart Québec. Mais je dis, comment ça se fait? Il dit, ben le buyer, George, il nous aime pas. Attends deux secondes, là. Ben l'année prochaine, George, il va nous adorer, là. Bon, on va y envoyer du data sur l'industrie, on va y envoyer des choses qui se font en Australie, on va y envoyer des trucs et on va le faire bien paraître auprès de son boss. Mais c'est sûr qu'il faut que George, il nous aime parce qu'il peut pas nous coûter 7% de part de volume, là, dans une bannière aussi importante que Walmart.
C'est sûr.
Fait que c'est toutes ces petites affaires-là que. Des fois, les clients sont contents de nous voir arriver parce qu'on parle de Poutine, tu sais. Mais t'as raison, des fois, il y en a d'autres qui disent c'est pas très charmant comme langage. Là.
Fait que sur le coup, c'est quoi? Ils vous accueillent comme des martiens, puis à un moment donné, quand ils se mettent à apprendre le rudiment du martien, ça commence à faire du sens.
Oui. Puis, tu sais, dans le sens où je suis obligé de t'enlever tout ton budget média, je te dis juste que à un moment donné, si tu travailles pas sur cette affaire-là, peu importe ce que tu fais comme campagne, ça marchera pas.
Ouais.
On a eu un mandat aux clés. Puis tu sais, à notre âge, aux clés, c'est encore une marque qu'on trouve cool, là. Mais malheureusement, les 16-22 ans, ils la trouvent poche comme brand. Puis les 16-22 ans, c'est eux autres qui ont une job chez Sport Expert pour représenter ton produit, tu sais. Fait que on a fait une campagne qui était adressée aux 16-22 ans qui travaillent, Sport Expert, Auberçon, puis tous ces points de distribution-là. Puis on les a abonnés à un club VIP Auclé. Fait que tu rentrais gratuit aux événements commandités par Auclé. Puis tu allais donner ton opinion sur les designs qu'il allait faire l'année d'après, puis il y avait des concours, tu pouvais aller à des événements de ski, commandité par Oakley, puis tout ça. Puis il y a 3600 des 5000 jeunes qui ont été recensés, qui ont comme embarqué dans le programme, parce qu'on passait à travers nos représentants. Mm-hmm. Puis tout d'un coup, les ventes sont mises à augmenter double digit, puis ça faisait 15 ans là, qu'ils essayaient de mettre de l'argent sur des panneaux routiers, des abris bus, des commandites d'événements, puis il n'y a rien qui faisait qu'ils vendaient plus au Canada. Mais
des lunettes fumées, t'as trop fumé, là.
Ouais. Pour ça, je dis, CRI, on est une drôle de bibitte. Moi, c'est ce qui nous fait triper, c'est ce bout-là de l'équation, là.
C'est drôle parce que votre nom appelle pas cette espèce d'humilité-là.
Ouais, on est ton. Le pire, c'est que c'est drôle parce que quand on nous demande pourquoi vous appelez CRI, tu sais, le rationnel, le vrai, c'est que depuis le début des temps, le gars qui se met sur la pointe de lait, sur sa caisse de lait, puis qui raconte dans le centre du village quels sont les produits qui sont à vendre, tout ça, il l'appelait le crieur. Fait qu'on s'est appelé CRI. C'est ça la jeunesse, mais les deux actionnaires fondateurs, c'est des chrétiens. Fait qu'on les a toujours dit, ouais, c'est parce que vous trouviez ça cute, là.
Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être cri-cri.
Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais t'as raison, dans le sens où crier un message publicitaire, ça irait mieux avec le nom de notre brand. Puis nous autres, au contraire, on est plus dans les coulisses.
Ah ouais, c'est ça. Vous êtes plus dans le stockroom.
Ouais, mais c'est ça. C'est un univers, le fun. Puis surtout, comme je dis, depuis que le numérique est arrivé, parce que ça nous sort un peu du stockroom, là. Tu sais, je veux dire, puis, tu sais, tout ce qui est certification pour faire du marketing de contenu, toutes les nouvelles approches, que ce soit le RTB, tout ça, on maîtrise ce bout-là aussi. Mais comme je dis, ça nous met dans un univers un petit peu plus média, un petit peu plus visible, si on veut, là.
Mm. Puis en même temps, cette approche-là, ça vous permet d'accélérer votre insight d'un paquet d'entreprises, d'industries. C'est assez distinctif, ça.
Tu sais, on a des plateformes extranet qui gèrent des programmes de mobilisation chez nos clients. Fait que là, je m'explique un petit peu.
Ouais.
Donc, chez Olimel, on a un programme qui s'appelle Hunger Games. Puis tous leurs représentants ont une espèce d'avatar sur cette plateforme-là. Puis, il y a des compétitions de vente puis de performance, de merchandising, puis de choses comme ça sur cette plateforme-là. À partir du moment où ma plateforme est branchée sur tes résultats de vente, que tous les adresses de tes reps puis même de partenaires de distribution X, etc., sont rentrées dans ma plateforme, je commence à être tough à sortir de là, tu sais. On base pas le succès de notre démarche, on s'assure que le client il nous aime, là, mais une fois que je suis bien coincé dans ta démarche de distribution, là, tu sais, je veux dire, c'est des relations qui ont 7-8 ans parce que cette plateforme-là est reskinée, le programme il s'appelle différemment 2 ans plus tard, puis on renouvelle des trucs, puis ça devient excitant, puis même les gars de la force de vente, ils peuvent s'envoyer promener à travers la plateforme, tout ça, puis ils peuvent se motiver, puis les régions peuvent se mettre en compétition, de checker comment on est meilleur que vous autres. Fait que...
Puis t'as le pouls direct de ce qui se passe. En fait, vous devenez quasiment comme les employés, vous autres aussi, étant des témoins privilégiés de ces conversations-là, si tu veux.
Ben oui. Puis tu sais, quand les directeurs et les VP ils nous entendent, ils, comme agence, ils disent, coudonc, cette gang-là, ils travaillent-tu ici, tu sais?
Ben ouais.
Parce qu'on est dedans, là, c'est...
C'est un point que tu dirais qui... Non, moi, reformuler. C'est-tu une faiblesse de la perception que les clients ont des agences, justement, de les utiliser comme des prestataires de services versus de véritables partenaires? Le terme est galvaudé, mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, vous avez pas mal plus un rôle de partenaire que la moyenne des ours, là.
J'ai l'impression qu'il y a des agences qui se sont fait surprendre par le fait qu'ils devaient être accountable auprès de leurs clients. C'est qu'à un moment donné, on était tellement fiers de notre créativité puis de l'innovation qui sortait de nos concepts. Puis c'est une belle chose, mais à un moment donné, il y a des comptables qui ont mis en place des taux horaires, des systèmes de gestion de projet, des choses comme ça. Puis là, à un moment donné, il fallait que le dollar que je te donne, faut que tu prouves qu'il me revient de quoi. Fait que, comme agence, nous, on était déjà là depuis longtemps, parce que en promo, tu te fais donner 50 000 $, puis il faut que tu me démontres que 6 semaines plus tard, j'ai fait tant de ventes, puis j'ai eu tant de participants, puis j'ai mis tant de monde dans ma base de données, puis des trucs comme ça.
Ah ouais, vous étiez comme l'ancêtre des Matrix du web qui arriverait plus tard. Vous étiez les premiers à être imputables de ce que vous faisiez.
Ben, c'est ça, imputable. Voilà, c'est ça la traduction de Countable. Mais j'ai l'impression qu'il y a des agences traditionnelles qui sont faites surprendre un peu par ça. Là. Puis nous, là, en 2008, quand les budgets marketing ont planté, étrangement, on était contre-cyclique. Puis tout le monde s'en allait en promo puis en terrain parce que...
C'est vrai.
Si j'ai plus 1 million à mettre en médium, il me reste 200 000, ben, si j'ai les mêmes résultats à produire, ben, aller en promo. Fait que nous, ça a été comme des bonnes années pour nous autres à partir de ce moment-là. Là.
Fait que tu nous souhaites d'autres périodes économiques down, non?
Ouais, nous autres, on attend que ça relance. Mais non, mais comme je t'ai dit, avec le marketing de distribution, ça a été intéressant comme outil de développement des affaires parce que, puis on n'a pas parlé sur beaucoup de tribunes, là, comme, Infopresse ou rien comme ça, ou parce que tant et aussi longtemps qu'on est les seuls à proposer ça, on a comme un outil qui est le fun.
Es-tu sûr que vous êtes les seuls?
Ouais, à date, tu n'es pas. Les gens nous disent souvent, ah, ben c'est comme un programme de vente. Ouais, mais on y amène les mêmes subtilités que quand on fait du marketing auprès d'un segment de clients, on va faire la même démarche d'identifier les « what's in it for me » puis les insights de la cible que tu essaies de mobiliser. On va se donner la même énergie de les surprendre, de les séduire, etc. Donc, oui, c'est des programmes de vente, c'est juste une autre génération de programmes de vente.
C'est tout pour cet épisode. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet, téléchargez l'application iPad Grenier Magazine dans le App Store. Et si ça vous tente, poursuivons la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag Grenier Mag et mon identifiant Twitter, Pizza for All. À la prochaine!